Gaulle est interrogé, estimait qu'il était inacceptable que des négociations aient lieu avec le M23. Donc ça, évidemment, dans une année électorale, ça pèse.
Des propos recueillis par Pauline Azidi.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui vous parler du dernier roman de Marie-Hélène Lafont, Les Sources, paru en janvier 2023 aux éditions Buchet-Chastel. Au préalable, quelques mots sur son auteur, né en 1962 à Aurillac, et qui plante le plus souvent le décor de ses livres dans son Cantal natal. Professeure de lettres, elle a publié son premier roman Le Soir du Chien en 2001, et obtenu le prix Renaudot des lycéens. Celui-ci sera suivi de nombreux autres prix littéraires, dont le Renaudot en 2020 pour Histoire du Fils. À propos de ce dernier roman, Les Sources, Marie-Hélène Lafont évoque le chantier violent qui a fait exploser en plein vol d'autres projets d'écriture, le vertige constitutif de ce livre qui lui impose sa nécessité. Elle nous fait partager la vie d'une famille, installée dans une ferme isolée dont le couple a fait l'acquisition quelques années auparavant, un père, une mère, tous les deux trentenaires, trois enfants jeunes, une menace pesante, un huis clos montagnard qui met le lecteur face à un saccage. Trois voix se font entendre, celle de la mère, les 10 et 11 juin 1967, celle du père, le 19 mai 1974, et celle de l'une des filles, le 28 octobre 2021. Écoutons-les.
Samedi 10 et dimanche 11 juin 1967. Il dort sur le banc. Elle ne bouge pas. Son corps est vissé sur la chaise. Les filles et Gilles sont dans la cour. Ils sont sortis aussitôt après avoir mangé. Ils savent qu'il ne faut pas faire de bruit quand il dort sur le banc. Claire a refermé derrière elle les deux portes, celle de la cuisine et celle du couloir. La table n'est pas débarrassée. Elle s'en occupera plus tard, quand il aura fini la sieste. Une lessive sèche dans le jardin. Nicole l'a écartée sur le fil avant de partir. Il faudra ramasser tout le linge, repasser, ranger, préparer les vêtements des enfants pour demain matin, les leurs aussi, et cirer les chaussures. Elle est contente de descendre chez ses parents. Elle voudrait être contente. On sera chez elle. De son côté, on pourra rire et parler fort, il n'aura pas le dessus. Chez elle, il n'a pas le dessus. Il mange et il se tait. Dans trois semaines, le 30 juin, elle aura 30 ans. 30 ans, trois enfants, Isabelle, Claire et Gilles, deux filles et un garçon, 7, 5 et 4 ans, une ferme, une belle ferme, 33 hectares, une grande maison, 27 vaches, un tracteur, un vacher, un commis, une bonne, une voiture, le permis de conduire. Heureusement, elle a le permis de conduire. Sa mère a eu raison d'insister pour qu'elle le passe. Isabelle, Claire, Gilles. Les trois prénoms reviennent toujours dans ses listes. Trois enfants, trois prénoms, 33 hectares, 30 ans. Elle s'accroche à ses listes. Isabelle et Claire sont sur les balançoires. Gilles les regarde. Il est assis sur le mur. Les bras croisés sur la poitrine, il tend ses jambes nues en imitant la cadence de ses sœurs qui cherchent à se donner de l'élan. Elle n'aura pas d'autre enfant. Il sera le dernier. Elle aime le tenir contre elle, le garder. Il est doux, il sent le sucre chaud et le bébé, encore. Il rit quand il se réveille. Il est joyeux le matin quand ils sont seuls dans la chambre, elle et lui. Les filles s'échappent déjà. Elle le sent. Elle court, elle saute, elles sont sérieuses. Elle se taise. Isabelle est rentrée à l'école. Le ramassage scolaire passe au bout du chemin, le matin et le soir. La maîtresse dit qu'elle apprend bien. Elle fait ses devoirs sur la table de la cuisine et on n'a pas besoin de surveiller. Claire entrera au cours préparatoire dans un peu plus d'un an. Elle pense à sa mère et à ses tantes qui disent toujours que ça passe vite la vie, le temps, les années de jeunesse, où on a les enfants, petits avec soi dans les maisons. Elle commence à le comprendre. Elle déglutit dans le silence de la sieste. Elle appuie son menton sur ses mains et ses coudes sur la toile cirée. De part et d'autre de son assiette, elle déglutit encore. Bientôt 8 années depuis son mariage. Elle compte. Dans 6 mois et 17 jours, ils se sont mariés le 30 décembre 1959. Elle n'aime pas penser à ça, il ne faut pas. 8 ans de mariage et 4 ans à la ferme, ici, loin de tout, au bout du monde. Elle voudrait se lever, sortir, aller ramasser la lessive, faire ce qu'il faut, prendre un peu d'avance avant la grande toilette des enfants. La toilette du samedi qui est plus longue quand on descend le lendemain chez les grands-parents. Chez elle et chez lui, il faut que les 3 enfants soient impeccables, toujours. Son père pèse, elle attend.
Une boule monte dans sa gorge. Il ne faut pas. Elle voudrait s'empêcher. Elle doit garder des forces pour tout faire, sinon ce sera encore le cirque, la corrida. Elle a des mots maintenant, pas beaucoup. 2 ou 3, ça suffit. Depuis toutes ces années, elle a trouvé des mots pour se parler à elle, dans sa peau, de ce qui lui arrive, de ce qui est arrivé dès le début, aussitôt après le mariage. Elle ne dit ces mots à personne. Comment les dire? Il faut faire semblant devant les gens. Tous les autres sont les gens. Même sa mère, son père et ses sœurs. Ses sœurs savent. Elles ont senti. Elles ont compris. Elles ont vu une fois, après la naissance de Gilles, où il n'a pas pu se tenir devant elles. Depuis, elles ne sont pas revenues à la ferme passer quelques jours comme elles le faisaient quand les filles étaient plus petites. Mais elle ne sait pas si ses sœurs ont parlé à sa mère de ce qu'elles avaient vu. Sa mère ne lui a rien dit et elle non plus. Les mots ne lui viennent pas. L'orgueil les bloque. Elle appelle ça l'orgueil, ce qui la fait tenir et rester et qui compte aussi pour sa mère. Elle le sait. Elle connaît sa mère mieux que personne, mieux que ses sœurs et que son père. Il remue un peu sur le banc. Il bouge son bras gauche qui est replié sur ses yeux à cause de la lumière. Il a laissé ses lunettes sur la table à côté de son couteau fermé. Et il dort comme ça, allongé sur le banc étroit, la jambe gauche posée sur la droite, les pieds croisés. Elle connaît ses heures. Il va dormir encore 10 minutes. Il sera réveillé et levé d'un coup. Il mettra d'abord ses lunettes, il prendra son couteau et il lui demandera sans la regarder ce qu'elle attend pour ramasser la table. Il ne supporte pas le moindre bruit pendant sa sieste. Elle ne répondra pas. La boule durcit dans sa gorge. Elle a l'orgueil, comme sa mère. C'est une façon d'être, même si ça n'explique pas tout. Sa mère aurait pu empêcher le mariage en insistant beaucoup. Elle ne l'avait pas fait. Son père lui avait parlé une fois, un soir du dernier été qu'elle avait passé chez ses parents en 1959. Il revenait du pré rond, lui avec la faux, elle avec le râteau. C'était un petit pré en pente, tout biscornu, enfoncé sous des frênes qui arrêtaient le soleil. Le père avait fauché, elle avait râtelé derrière lui le foin qui n'était pas haut et tout clairsemé, mais qu'il fallait quand même déplacer pour qu'il échappe à l'ombre des frênes et sèche mieux. Elle aimait bien travailler avec le père, il était calme et doux. Après le dernier tournant, en haut de la côte, il s'était arrêté. De là, on voyait tout. Fridière d'abord, et en face, de l'autre côté du ruisseau, le Raisonnais, la ferme de Soulages qui avait fière allure, les 2 bâtiments, les prés, les bêtes, et la grosse maison où elle irait habiter après son mariage, dans moins de 6 mois. On avait fixé la date le 30 décembre. Pierre travaillerait avec son père comme il le faisait déjà avant le service militaire. Il allait rentrer dans 9 semaines, il le confirmait dans sa dernière lettre, fin septembre ou début octobre. Le père s'était tourné vers elle, il avait dit « C'est une belle ferme, tu seras pas loin à Soulages. » « Mais j'aime pas ton fiancé, j'aime pas comment il te regarde. »
Thank you. guarda che luna, guarda che mare, da questa notte senza te dovrò restare, folle d'amore, vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto, perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che...
La cour est verte. Isabelle est montée dans l'érable. Elle grimpe presque jusqu'en haut et y reste longtemps. On voit ses pieds quand on s'avance sous l'arbre, contre le tronc. On devine qu'elle est là, mais elle ne répond pas si on l'appelle. Elle ne sait pas bien comment s'y prendre avec Isabelle qui est l'aînée, comprend tout, lui résiste, à elle, et se méfie de son père. Claire et Gilles sont accroupis devant les clapiers et parlent au lapin. Depuis le pas de la porte, elle les voit de dos. La lumière joue sur leurs cheveux châtains, avec des reflets dorés, bouclés pour Claire, souples pour Gilles. Ils ne sont pas blonds. Elle n'aura pas eu d'enfant blond. Isabelle est frisée, comme son père, et presque brune. C'est Claire qui parle au lapin. Gilles écoute et tourne la tête tantôt vers sa sœur, tantôt vers les lapins, comme si les lapins répondaient. Elle lui demandera si les lapins répondent quand Claire leur parle. Il lui racontera en gazouillant avant de s'endormir quand elle le couchera. Son petit lit à barreaux est dans la chambre du bas, à côté de la leur. Elle aime rester longtemps sur la chaise basse. Elle appuie son épaule sur les barreaux du lit, peint en jaune, qui vient de chez elle. Elle a dormi dans ce lit avant le départ du père pour la guerre. Elle n'a jamais demandé à sa mère si elle avait eu le temps de l'utiliser pour André. Elle ne peut pas poser ces questions à sa mère. Ses sœurs, après l'autre, ont dormi dans ce lit à barreaux et il reprendra du service quand elles auront des enfants. Ses sœurs fréquentent. Elles ont 20 ans. Elles vivent leur vie. Ses sœurs ne peuvent rien pour elles. Isabelle et Claire dorment déjà en haut, ensemble, dans un grand lit neuf. Le soleil de juin écrase la cour qu'il faut traverser pour aller au jardin, chercher le linge propre. Elle a pris la corbeille. Elle la sent contre sa hanche. Son corps avance. Les enfants ne se retournent pas. La cour est vide. À 7 heures, les poules sont dans le pré, derrière la maison. Et les chiens sont descendus à l'étable avec lui. Ils le suivent. Quand il se lève de la sieste, ils lui obéissent. Ils filent. Quand elle voit revenir les chiens qui restent dans la cour et n'entrent pas dans la maison, quand les chiens passent devant le portail du jardin ou se couchent derrière l'érable, elle sait qu'il n'est pas loin. Le linge est sec et il sent bon. Les robes des filles pour demain, leurs 2 gilets blancs et les petites affaires de Gilles, à repasser. Les chaussettes, les culottes et les tricots de corps des enfants, 2 combinaisons à elle, un chemisier, une jupe, à repasser aussi. Nicole ne mélange pas le linge quand elle le suspend. Les vêtements des enfants d'un côté, ceux des adultes de l'autre. Elle a ses manières de faire. Elle travaille lentement, avec beaucoup de soin. Heureusement que Nicole est là. C'est bien d'avoir une bonne... De pouvoir la payer, il n'y en a pas dans toutes les fermes, à Fridière. Chez elle, de son côté, personne n'en a jamais eu. Jamais, ni elle, ni ses sœurs n'ont dû aller travailler chez les autres, se placer chez les autres. À Soulages, chez ses beaux-parents, c'est un gros train de maison, avec 6 domestiques à table tous les jours, matin, midi et soir, en plus des gens de la famille. Et sa belle-mère a la même bonne depuis 20 ans. Yvonne qui abat un travail fou, plus 1 ou 2 femmes, toujours les mêmes que l'on prend à la journée plusieurs fois par an quand c'est nécessaire. Chez eux, on sait faire rentrer l'argent. Il faut leur reconnaître ça. Ils ont été les premiers du pays à avoir un tracteur, une voiture, la télévision. La corbeille à linge est presque pleine. Elle se tient dans l'allée du jardin et secoue la tête pour ne pas penser à ses 6 premiers mois de son mariage, de janvier à juin 1960, où elle habitait Soulages. Elle se souvient... de tous les côtés. Elle était enceinte tout de suite. Isabelle est née le 30 novembre 1960, 11 mois jour pour jour après leur mariage. Les 2 combinaisons, le chemisier, la jupe, elle les dépose sur le dessus de la corbeille. Elle ne reconnaît pas son corps que les 3 enfants ont traversé. Elle ne sait pas ce qu'elle est devenue.
Elle est perdue dans les replis de son ventre couturé, haché par les cicatrices des trois césariennes. Ses bras, ses cuisses, ses mollets et le reste, saccagés. Son premier corps, le vrai, celui d'avant, est caché là-dedans, terré, tapis. Il dit « Tu ressens plus à rien ». Il dit « Tu pues, ça pue ». Et il s'enfonce. Pour se calmer et tenir, il faut faire des choses. Elle a appris ça. Travailler, réciter des listes, penser à d'autres personnes, se raconter les histoires des gens, en dehors de la famille, et profiter des occasions. Elle appelle occasion les accalmies. Il y en a, et certaines sont assez prévisibles. Cet après-midi, par exemple, elle sera seule jusque vers 5 heures. Il ne devrait pas remonter avant la fin de la traite. Le Vacher a pris sa journée, puisque demain, dimanche, il fera tout le train seul avec le commis, Félix, qui, lui, ne s'en va jamais. Faire tout le train, donc la traite de l'après-midi et le fromage, le Saint-Nectaire. Félix a beaucoup vu et presque tout entendu. Il vit avec eux depuis le début, depuis qu'ils ont acheté la ferme. Ils ont signé en mars 1963, un jeudi, le 7, chez le notaire d'Allanche. Il tombait une pluie mêlée de neige comme le jour du mariage. Et ils avaient signé comme le jour du mariage. Elle reste plantée dans l'allée du jardin, devant la corbeille pleine de linge sec et propre, dans la lumière verte de juin. Elle a signé. Elle pense à la ferme qui est une belle ferme et à la pluie mêlée de neige du jour de son mariage. Elle est rattrapée par cette pluie qui gâche tout son orgueil de propriétaire d'une belle ferme avec un vacher, un commis et une bonne. Elle sait où sont les photos. Elle ne les a pas rangées dans l'album vert que la tante Jeanne leur a offert. Elle a tout glissé en vrac entre les premières pages de l'album et ça restera comme ça. Elle ne peut pas regarder ces photos. La première fois où ses sœurs sont venues à la ferme, en juin 1963, elles ont demandé à les voir, mais elles n'ont pas recommencé. C'étaient des gamines, pourtant 15 et 16 ans, et elles se souvenaient bien du mariage. Elles ont d'abord ri de la moustache du père, de reconnaître les invités, et de se retrouver dans le cortège sur la place du bourg, ou à la sortie de l'église sous les parapluies, avec leurs gros manteaux d'hiver et des chaussettes blanches de petite fille. Ensuite, elles ont cessé de rire. Elles lui ont rendu l'album et sont allées lever Isabelle qui était à la sieste mais ne voulait plus dormir. En juin 1963, ses sœurs étaient restées 2 semaines et Annie était arrivée tout de suite après leur départ, heureusement, pour l'aider dans la maison et s'occuper de Claire qui était facile mais n'avait pas encore un an. Ses sœurs étaient redescendues en emmenant Isabelle. Elle passerait l'été à Fridières jusqu'à la naissance prévue fin juillet. Elle attendait Gilles. Elle avait mal dans le dos. Ses jambes étaient enflées, sa cicatrice tirait. Elle n'avait plus de goût à rien. Elle aurait voulu pleurer et dormir tout le temps et ne plus l'entendre, lui. Ne plus le sentir, lui, qui tournait autour d'elle. Surtout les nuits dans le lit où il fallait encore servir et le laisser faire. Elle avait été si soulagée que le bébé soit un garçon. Le lendemain matin, le docteur Lachalme, qui avait pratiqué les 3 césariennes et la connaissait bien, était entré dans la chambre. Il connaissait la mère aussi et avait parlé avec elle. Il avait fermé la porte derrière lui, avait regardé le bébé, avait dit que c'était un beau bébé. S'était assis sur la chaise et lui avait expliqué la ligature des trompes. Sa mère avait raison, elle ne pouvait pas continuer comme ça, 3 césariennes en 3 ans. À 26 ans, elle avait 3 enfants en bonne santé, 2 filles, 1 garçon, elle serait tranquille. Il avait répété le mot « tranquille ». Jamais elle n'est tout à fait tranquille. Sauf le matin, entre le moment où il se lève pour aller traire, à 5 heures, et celui où elle doit, elle, vers 6h30 ou 7h ou plus tard, sortir du lit pour attaquer la journée. C'est une expression de sa mère qu'elle se répète pour se donner du courage, attaquer la journée. Elle ne se levait pas après la bonne, c'était impossible que la patronne ne soit pas levée avant la bonne, même si Annie ou Nicole savaient ce qu'il y avait à faire pour la soupe du matin, que les hommes mangent vers 7h30 et pour le petit déjeuner des enfants. La table de la cuisine est longue, les 3 hommes à un bout, les 3 enfants à l'autre, et elle, les 2 femmes, qui vont et viennent des uns aux autres. Elle a toujours connu ça, c'est la vie des fermes. Mais chez eux, personne ne parle, sauf lui, et le vacher, le nouveau, Gérard, qui lui répond. Le jardin est beau, elle jette un coup d'œil, c'est important. Même si la maison est isolée au bout du chemin, les gens voient le jardin en passant sur la route du haut. Les gens savent tout dans ces petits pays. Ici, comme à Fridière ou à Soulages, il faut que le jardin soit bien tenu. Les haricots, les carottes, les petits pois, les patates, les choux. On mange déjà de la salade depuis 2 semaines. Félix sarcle et bêche, Nicole arrose. Les pivoines rouges qui viennent de Fridière ont été belles pour la première fois. Elles ont mis des années à s'habituer. C'est plus haut ici, on est à 1000 mètres. L'hiver est plus long et la saison des jardins plus courte. Les pivoines sont déjà passées. Il faudra attendre les phlox début juillet au moment de commencer à faner. Il aurait fallu planter ou semer d'autres fleurs, mais elle a manqué de courage pour s'en occuper et maintenant c'est trop tard. Quand on fane, il devient comme fou. Il veut avoir fini plus vite que tout le monde. Il voudrait avoir fini avant d'avoir commencé. Il crie qu'il est seul pour tout faire, qu'elle est un boulet, un tas. C'est vrai. Il a raison. Un tas. Elle est devenue un tas. Un gros tas. Il cogne dedans, dans les jambes, dans le ventre. Elle traverse la cour, elle rentre dans la cuisine qui lui paraît sombre et fraîche. Elle n'aime plus le mois de juin. La vaisselle de midi est sèche, elle la range avec des gestes lourds. Elle est lourde, sa viande est lourde. Elle redonne un coup d'éponge à la table avant de se mettre à repasser. Il faudrait aussi balayer le lino, mais elle n'a plus le temps, elle a trop traîné au jardin. Elle est toujours débordée. Claire et Gilles sont sur les balançoires. Ils jouent à se renverser le plus loin possible en arrière, les jambes et le buste tendus, les fesses posées en équilibre sur la planchette étroite, leurs poings serrés sur les cordes. Ils ferment les yeux, leur visage se glisse dans l'effort. Isabelle leur parle d'en haut, de l'arbre. C'est la tante Jeanne, sa tante à lui, de son côté, la sœur de son père qui a offert le portique pour les enfants. Elle n'est pas mariée, elle habite Meudon, à côté de Paris, et elle est professeure de mathématiques dans une école religieuse. Elle aime bien la tante Jeanne. C'est la seule personne de sa belle famille avec qui elle se sent à l'aise, mais on ne la voit presque jamais. Sauf une ou deux fois l'été pendant les vacances, quand elle est à Soulages chez son frère. Depuis qu'Isabelle est entrée à l'école, la tante Jeanne envoie des livres pour les enfants. Elle a dit qu'elle le ferait à Noël et pour les anniversaires. Au début, les 2 premières années, elle était venue passer quelques jours en été entre le foin et le regain avant le 15 août. Il s'était retenu tant que sa tante était là. Elle ne sait pas exactement pourquoi la tante Jeanne ne vient plus, mais elle le devine. La tante a dû sentir que ça n'allait pas dans cette maison. C'est une femme qui connaît la vie. Elle a peut-être même essayé de parler à son neveu, qu'elle appelle encore Pierrot, comme quand il était petit. Mais elle s'est découragée. Les gens se découragent, c'est normal. Chacun a ses problèmes et s'occupe de ses affaires comme il peut. C'est le bout du monde ici. La famille est trop loin. Personne ne vient chez eux, sauf le facteur, le marchand de bestiaux ou le vétérinaire. Et ils ne vont chez personne. Ils sont nouveaux dans le pays. 4 ans, ça ne compte pas. On les appelle les Aurillacois. Elle le sait, c'est Annie qui le lui a dit. D'un autre côté, elle préfère vivre seule dans son trou. C'est difficile de toujours faire semblant. Demain, chez ses parents, elle fera semblant. On restera longtemps à table. Elle se reposera, on parlera des jardins, des gens, des voisins. Sa mère raconte bien, elle imite les uns et les autres, avec leurs manies, leur façon de faire, leurs accents. Tout le monde rit, même lui. Elle sentira le regard de son père posé sur elle, mais son père est un doux, il ne peut rien pour elle. Elle a fait sa vie comme ça. Elle va avoir 30 ans, et sa vie est un saccage. Elle le sait, elle est coincée, vissée avec les 3 enfants. Il est le père des 3 enfants, il les regarde à peine, mais il est leur père, il est son mari. Et il a des droits.
Ma guarda che luna. Guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire.
perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna, guarda che mare.
En mars 1963, ils sont montés ici. C'était loin, à plus de 90 km, au moins une heure et demie de voiture, mais il a voulu, il a décidé, il fallait se lancer, on emprunterait pour acheter, on serait chez soi au lieu de payer un fermage à un propriétaire, et avec la vente du Saint-Nectaire, on arriverait toujours à rembourser. Même en tirant un peu l'âne par la queue, peut-être, au début. La ferme était d'un seul tenant, avec un beau pré-plat et une rivière, la Santoire. Pour irriguer, faire pousser du regain et tenir les bêtes à l'herbe le plus tard possible dans la saison. Il a de l'idée comme son père et comme son frère qui a pris un commerce à Aurillac. Elle n'aurait pas dû signer. Elle aurait dû dire non. Refuser. Elle aurait dû partir, même enceinte. Elle aurait dû partir avec les deux filles. Elle n'avait pas pu. Elle n'a pas su dire pourquoi ni comment. Il avait la force pour lui. Elle suivait. Elle avait toujours suivi. Elle voudrait s'asseoir dans le fauteuil, dans le coin de la fenêtre, et dormir pour ne plus penser. Elle a laissé la corbeille de linge sur la table, dans le couloir. Elle va la chercher. Ils descendent dans les familles le dimanche, à peu près une fois par mois. Ils mangent tantôt chez elle, tantôt chez lui. C'est réglé comme ça. Ils partent vers 10h30 et remontent le soir. Chaque fois la veille, le samedi, c'est terrible. Tout revient, elle est envahie. Elle le sait, elle s'y attend. Tout, les dates, les moments, ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle n'a pas fait. Elle se souvient, ça la traverse et elle ne peut pas lutter. On dirait qu'il le devine, qu'il le flaire. Et le samedi soir, surtout ces samedis-là, il faut y passer, toujours. Elle se dégoûte, il la dégoûte. Il est pire qu'une bête. Les bêtes ne sont pas méchantes. Les bêtes ne parlent pas pour dire des mots qui sont pires que les coups. Elle aurait préféré que Nicole reste, même si elle se sent moins à l'aise avec elle qu'avec Annie. Mais Nicole a sa journée. C'est normal. Elle part le samedi avant midi et revient le dimanche soir. Elle est soulagée quand la bonne revient. Elle respire mieux. Elle doit repasser. Elle étale sur la table la couverture du repassage et branche le fer. Il est neuf. Elle a posé la corbeille sur le banc. Elle se penche. Elle lisse la robe d'Isabelle avec le plat de la main et la repasse à l'envers, pour éviter de marquer le tissu. Elle sait que sa mère a l'œil, rien ne lui échappe, surtout dans la tenue des enfants. Elle voudrait ne pas décevoir sa mère, au moins ça. Elle sait que sa mère n'aime pas qu'elle soit devenue comme elle est. Sa mère a la langue pointue. Elle lui a déjà dit qu'elle ne peut pas rester comme ça, dans cet état, à son âge. Maintenant qu'elle n'aura plus d'enfants, il ne faut pas se laisser aller. Il faut suivre un régime, c'est mauvais pour sa santé, et pour son ménage aussi. Les hommes ont des besoins. Ils vont chercher ailleurs ce qu'ils ne trouvent plus chez eux. Elle ne doit pas se négliger, elle doit réagir. Elle a de beaux enfants, elle est la patronne d'une ferme, avec une maison à faire tourner, elle doit tenir son rang. Le mot « rang » roule dans la gorge de sa mère, qui lui parle doucement, insiste, répète, lui touche le bras, penche la tête vers elle. Sa mère est grande pour une femme, plus grande que le père, plus solide aussi, plus charpentée, forte, mais pas grosse, pas molle. Sa mère est forte. Il le dit, lui. Il dit, ta mère, je la respecte. Ton père, c'est rien. C'est pas un homme. Mais ta mère, je la respecte.
Volle d'amore, vorrei morire. Mentre la luna di lassù mi sta a guardare. Resta soltanto tutto il rimpianto. Perché ho peccato nel desiderarti tanto. Ora son solo a ricordare e vorrei poterti dire guarda che luna.
Dimanche 19 mai 1974. Il éteint la télévision. Félix est monté se coucher vers 9h, comme d'habitude, et il est resté, lui, pour écouter la soirée électorale jusqu'au bout. C'est mieux que l'autre, le socialiste, mais il préférait Pompidou. Au moins, il sortait du coin, de Montboudif, tandis que Mitterrand ou Giscard, même s'il fait semblant de jouer à de l'accordéon,
ne peuvent pas imaginer qu'il existe en France des paysans comme lui qui entendent pousser l'herbe à 1000 mètres d'altitude dans la vallée de la Santoire et savent qu'ils sont les derniers. Il secoue la tête. S'il se met à penser à ça, à l'avenir de l'agriculture, sa nuit est fichue, même avec la sourdine de la radio dont il a pris l'habitude maintenant, depuis 7 ans qu'il dort seul. Bientôt 7 ans. C'était en juin, le 11, juste après la guerre des 6 jours. Il ne sait pas pourquoi il se souvient de cette guerre entre les Juifs et les Arabes, mais c'est comme ça. Pour la ferme, il se souvient de tout, le début et la fin, de chaque emprunt, le montant des mensualités, les dates d'achat du tracteur, de la faucheuse, de la botteleuse, de la télévision, de la machine à laver le linge, les dates des travaux de l'étable, tout, tout, tout. Depuis le 7 mars 1963, le jour où ils ont signé chez le notaire, il a les dates dans la tête. Pas besoin de vérifier sur les calendriers du Crédit Agricole qu'il garde dans le meuble de la télévision. Il faut qu'il arrête ça aussi, les dates. Sinon, il ne dormira pas. Dans le lit, il pense que Pompidou est mort de la même maladie que la tante Jeanne, le cancer du poumon, à 1 année d'intervalle à peu près, et au même âge, puisque la tante Jeanne avait 1 an de plus que Pompidou. Il pense souvent à la tante Jeanne le soir. Elle voyait loin, clair. Elle manque. Elle aurait aimé savoir que les filles apprennent si bien à l'école. Les deux. Elles sont déjà en 4e et en 6e. Il a du mal avec le numéro de la classe des filles. Il l'écrit aussi sur le calendrier de l'année en cours, dans la marge. Les filles avancent. Gilles est encore dans le primaire. Il ne sait pas trop à quel niveau. L'année passée, pour l'enterrement de la tante Jeanne, le jeudi 27 septembre, Claire avait lu un long texte devant tout le monde, dans l'église pleine, et le curé qui venait souvent manger à Soulages avait très bien organisé la cérémonie. Il avait dû lutter pour ne pas pleurer à cause de la voix de sa fille, qui lisait très bien, mieux que le curé, sans se démonter devant tout ce monde, alors qu'elle venait d'avoir 11 ans. Et sortait juste de l'école primaire. Il avait pensé très fort à la tante Jeanne, qui était couchée dans le cercueil, et aurait été tellement fière. Giscard va faire passer la majorité à 18 ans. Dans 4 ans, Isabelle sera majeure. Il calcule. Dans 4 ans, Isabelle aura le bac, s'il ne se trompe pas. Il recommence. La 3e au collège, et ensuite 3 années au lycée, 1978, elle aura le bac, et Claire aussi, 2 ans après. Elles feront des études à Clermont-Ferrand peut-être. Dans la commune, il connaît une fille de paysan qui étudie à Clermont pour devenir pharmacienne. Tout le monde la connaît. Et il sait qu'elle a été pensionnaire dans ce lycée d'Aurillac où iront ses filles. Il s'accroche pour comprendre et suivre le mouvement. Il faudra payer pour les études après le bac. Même avec le système des bourses, il faudra payer. Et il aura les moyens. Les filles ne sont pas bêtes. Elles verront la différence avec leur mère. Depuis qu'il est à la télévision, donc, M. Durif, le mari de la première institutrice Isabelle, vient régulièrement à la ferme. Monsieur Durif est électricien. Il vend des télévisions, mais il s'intéresse à tout. On peut parler avec lui des affaires du coin, et aussi de l'agriculture, des élections, du rugby, ou des études des filles. Monsieur Durif n'a jamais fait de commentaires, ni posé de questions sur la séparation, le divorce, et tout le tremblement. Les histoires, les avocats, le tribunal. Les gens ont dû parler, pourtant, à tort et à travers. On n'avait encore jamais vu. ça dans le pays, un divorce dans une ferme, une femme qui s'en va avec les trois enfants jeunes, petits. Au début, les gens ont dû penser, comme ses parents et lui, qu'elle allait revenir. Ça lui passerait, elle se calmerait. Il était le père des enfants et ils avaient acheté cette ferme ensemble. Elle avait signé. Il se souvient qu'il avait été vexé de ne pas l'avoir senti, qu'elle pourrait partir comme ça, avec les trois gosses, sans affaires, sans rien, alors qu'il croyait la tenir, surtout par l'orgueil. Elle aimait faire la patronne et se promener en voiture dans le bourg pour aller à la messe ou aux courses avec les gamins bien habillés. Il ne la pensait pas capable d'un coup pareil. Elle avait de la gueule. Elle était bonne pour bramer et se plaindre toute la journée. Mais décider, partir et ne pas remonter, non, il n'y croyait pas. Surtout quand on avait commencé à parler d'argent avec les avocats. Elle tenait à l'argent de la ferme, à sa part, comme elle disait. Sauf qu'ils avaient encore beaucoup à rembourser à la banque. Et que la loi n'était pas pour elle. Elle était dans son tort puisqu'elle était partie. La tante Jeanne, quand elle avait été mise au courant, en arrivant de Paris en juillet, un mois plus tard, avait tout de suite dit qu'il se trompait, lui et les parents, en faisant comme si ça allait s'arranger, et finir par se rabibocher, plus ou moins. La tante Jeanne avait eu raison. Toujours pas, c'est parti pour la nuit, il le sent. Il connaît la musique. Avec une bonne sieste sur le banc après manger, il tient le coup quand même. Il est solide. Il en a passé des nuits blanches entre 1967 et 1970. Des nuits entières à calculer comment faire pour ne pas revendre, ne pas capituler. Et redescendre dans le Pays-Bas, travailler chez son père ou dans une ferme louée. Pour racheter sa part à elle. Il en a trouvé. Il s'est défoncé. Il a tenu le choc. Il aime bien ses expressions. Et maintenant, tout est à lui.
Guarda che luna, guarda che mare, in questa notte senza te vorrei morire, perché son solo a ricordare e vorrei poterti dire, guarda che luna, guarda che mare, guarda che luna, guarda che mare.
Isabelle, Claire et Gilles vont puiser leurs racines dans ce paysage familial abrupt. Retrouvons Claire dans la cour de la maison pour une dernière visite.
5 années et demie dans la vallée de la Santoire et une vie entière entre Aurillac, Fridière et Paris. La source serait là. Une source. Elle préfère le mot source au mot racine. Elle a beaucoup retourné ses questions quand elle avait 30 ou 40 ans. Elle sait que sa sœur et son frère s'arrangent aussi comme ils le peuvent avec cette maison des petites années, la cour et l'érable, Fridière et le reste. Elle les retrouvera dans une heure avec les nouveaux propriétaires chez le notaire de Murat pour signer la vente de la maison.
Nous vous encourageons, chers auditeurs, à reprendre la lecture de cet ouvrage pour en découvrir tous les ressorts, la finesse de l'analyse psychologique des personnages. Cette émission a été préparée par Guylaine et Annie, aux voix desquelles s'est ajoutée celle d'Yvan. Le montage a été assuré par Claude Michel. Vous avez entendu des extraits de la chanson de Fred Buscaglione, Guarda che luna. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5. sur le site de l'émission www.1.1.